Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook, et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute. Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invitée, Juliette Speranza.
Regarder l'être humain par le prisme de la neurodiversité, c'est vraiment considérer qu'on a tous des talents, on a tous quelque chose à faire dans ce monde, on peut tous apporter quelque chose.
Il y aurait normalement une célèbre fête foraine autour de nous. Nous sommes au Jardin des Tuileries et je demande à Juliette pourquoi elle a choisi ce point de rencontre.
Eh bien parce que le monde du spectacle, c'est vrai que pour moi ça a été à un moment assez tôt dans ma vie, ça a été un moment de basculement en fait vers l'univers de la création. Voilà, c'est un moment à la fin de mes années lycée où j'ai fait des rencontres, où j'ai commencé à créer des spectacles. Et puis aussi le père de mes enfants est issu d'une famille de forains, donc c'est un univers qui me parle beaucoup aussi. C'est un lieu qui porte plein de symboles pour moi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus votre histoire avec le théâtre ?
J'ai eu la chance d'en faire dans des conditions professionnelles assez jeunes parce que j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, des rencontres qui étaient assez incroyables pour la jeune fille que j'étais à l'époque. Ça m'a aussi permis de me sortir d'un sentiment que j'avais de perte de sens. Enfin, j'avais du mal à trouver un sens à ma vie. J'avais du mal à canaliser toute mon énergie et à savoir comment créer. Donc c'est vrai que le moment où j'ai rencontré toutes ces personnes avec qui j'ai commencé à faire du théâtre, en Bourgogne, à la Maison Copeau, où il y a encore beaucoup d'activités culturelles en temps normal. C'est vrai que pour moi, ça a été le moment où j'ai eu l'impression de pouvoir faire quelque chose dans le monde et d'appartenir au monde. J'ai joué un petit peu à l'époque. Aujourd'hui, je ne fais plus qu'écrire pour le théâtre. Et puis, j'ai rapidement d'ailleurs renoncé à jouer pour me concentrer plus sur l'écriture. Mais tout ce qui est vraiment écriture, mise en scène, imaginer des spectacles seul ou avec des metteurs en scène, c'est vraiment quelque chose qui me comble de joie.
Alors justement, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez commencé par enseigner la philosophie, les lettres et le théâtre pendant environ 10 ans, je crois. Et vous avez ensuite passé le concours de professeur des écoles pour enseignant maternel. Puis vous avez démissionné de l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous êtes doctorante en philosophie de l'éducation. C'est quoi la philosophie de l'éducation ?
Moi, ce que j'ai l'impression de faire quand je parle avec les gens qui sont dans le milieu de l'éducation, c'est que je casse un petit peu les codes, les normes, la structure de l'éducation pour réfléchir à la légitimité en fait du cadre qu'on impose aux jeunes, pour réfléchir au sens qu'on donne à l'enseignement, pourquoi l'école est comme elle est aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'elle porte énormément d'injustices et pourquoi et comment on peut faire bouger les choses. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion extrêmement globale que j'essaye de mener sur l'éducation. La philosophie de l'éducation, pour moi, c'est ça. C'est une réflexion qui prend en compte tous les paramètres qui vont autour de l'éducation.
Les pigeons et les canards derrière nous ont l'air d'accord. Cette démission de l'éducation nationale, est-ce que c'était, on pourrait dire, une déviation dans votre vie ? Est-ce que vous l'avez vécu comme une évidence ou plutôt comme une violence, éventuellement une rupture avec son lot de résignation, peut-être ?
Alors j'ai eu beaucoup de déviations dans ma vie, donc c'est venu assez vite, je me suis dit il faut que je parte. La violence, elle était plus du côté finalement de l'institution avec qui ça se passait mal, et moi j'étais pleine de bonne volonté, d'envie, d'idées, d'amour pour la transmission. Donc il y a eu une violence et un sentiment d'injustice dans cette démarche, mais clairement oui, ça a été une déviation et j'en suis très contente parce que j'ai très très vite trouvé comment transformer l'essai. Cette expérience finalement, j'ai réussi à la transformer en quelque chose de pour moi très constructif.
Alors vous le savez, sur les déviations, on prend à bras le corps la notion de changement. Et vous, votre truc, on pourrait appeler ça la différence ou la diversité peut-être. Est-ce qu'il y a ici un lien à faire ? Est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que le changement est au cœur de votre réflexion ?
Clairement, cette réflexion, elle m'a amenée à cette certitude que les êtres ne sont pas figés. Je m'appuie sur de nombreuses réflexions sociologiques et philosophiques qui refusent justement le déterminisme et qui mettent en avant d'autres paramètres qu'on ignore souvent quand on va juger une personne. Cette question de la différence, grâce à la philosophie, j'ai vraiment pu, enfin, je suis en train, et je, enfin voilà, c'est une réflexion sans fin, je pense, mais de remettre en question le statut de la différence. Je peux donner par exemple un exemple sur lequel vont s'appuyer certaines de mes recherches, ce qu'on appelle le modèle social du handicap. Une personne, elle n'est pas uniquement handicapée pour ce qu'elle est, en fait. C'est pas uniquement elle qui est porteuse de son handicap, mais ce qui va construire le handicap, c'est aussi son environnement, c'est aussi autrui, c'est aussi la place que lui fait la société pour pouvoir se mouvoir, apprendre, etc. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre les personnes handicapées, les personnes incapables, les personnes bêtes, les personnes intelligentes. Je pense qu'on doit vraiment revoir complètement notre relation à une forme de hiérarchisation et de classification des individus qui est vraiment dommage pour tout le monde, quoi, qui est une perte pour tout le monde.
Et en ce sens, vous avez fondé un mouvement, le mouvement La Neurodiversité France, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, la neurodiversité, c'est un concept et c'est aussi le nom d'un mouvement qui, en fait, revendique justement l'égalité des fonctionnements cognitifs, l'égalité des intelligences. Ce concept, il a été créé par Judy Singer à la fin des années 90, c'est une sociologue. Ce concept est vraiment fondamental et je pense que beaucoup sont en train de le comprendre. Regarder l'être humain par le prisme de la neurodiversité, c'est vraiment considérer qu'on a tous des talents, on a tous quelque chose à faire dans ce monde, on peut tous apporter quelque chose et qu'il faut vraiment apporter beaucoup plus de flexibilité et d'ouverture, de tolérance. Si on prend de la distance avec toute la morale, toute la condescendance qu'il peut y avoir par rapport aux personnes qu'on juge inférieures, il faut mettre ça de côté, mais plutôt considérer que de manière neutre, en fait, les gens sont égaux, vraiment, les gens se valent et ils ont tous des potentiels différents et voilà, qu'il faut les laisser explorer et exploiter.
En tout cas, moi j'ai l'impression que ce concept de neurodiversité n'a jamais été aussi populaire, peut-être sans le nommer. Par exemple, on n'a jamais autant parlé de personnes au potentiel, de zèbres, c'est-à-dire des personnes surdouées ou précoces par exemple. On parle aussi beaucoup d'hypersensibilité, de dyslexie ou d'autisme. Est-ce que, selon vous, le 21e siècle, c'est celui de la neurodiversité ?
Oui, oui, complètement. Oui, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Et là, vous citez quand même un phénomène qui n'est pas à 100% positif parce que, en fait, on est encore dans une phase de classification, de diagnostic à outrance. Au-delà des profils qui ont besoin vraiment d'accompagnement spécifique et pour lesquels il faut faire un diagnostic, est-ce qu'on a vraiment besoin, ça c'est une question philosophique, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les individus dans une case ? Pour les accepter. On est un peu dans cette étape-là, quoi. On est obligé de brandir sa carte « je suis TDAH, je suis 10, je suis au potentiel » pour que les gens acceptent finalement un fonctionnement particulier, dérangeant, anormal. La question des normes, c'est une question qui est vraiment très présente dans mon travail. On a vraiment un gros recul à prendre sur tous ces codes, toutes ces normes. C'est positif, mais pour moi, c'est une étape. Cette explosion de classification, de noms qu'on donne à toutes les spécificités, parce que finalement, c'est infini, en fait. C'est infini, on va toujours trouver des spécificités qui vont finalement avoir besoin d'être mentionné pour que l'individu puisse être respecté dans son individualité, pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans le groupe, etc. Et donc, de les nommer, c'est bien, mais voilà, il faudrait aussi qu'on soit dans une posture, je parle beaucoup de ça, de la posture enseignante, mais c'est la posture aussi de citoyen, d'homme, dans une posture d'ouverture où, voilà, quelqu'un ne fonctionne pas exactement comme nous, ne parle pas exactement comme nous, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes envies, n'a pas les mêmes codes, eh bien, voilà, qu'on tolère cette personne sans avoir forcément de diagnostic explicatif, quoi.
Et vous avez employé le sigle TDAH, c'est trouble de l'attention.
Oui, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, effectivement. On en parle beaucoup pour parler de l'école, mais c'est pareil dans le monde du travail. C'est des enfants qui sont souvent extrêmement... qui ont des problèmes de concentration, qui vont avoir du mal à rester en classe toute la journée, être attentifs. Mais c'est vrai que c'est des enfants, par exemple, dont on ne prend pas assez en compte les besoins. On est beaucoup dans la stigmatisation, ils sont pénibles. pénibles, ils envahissent l'espace de la classe, ils permettent pas au groupe de fonctionner correctement, mais on prend pas du tout en compte leurs besoins à eux. Ça, c'est un bon exemple, par exemple, de profil qu'il faudrait apprendre à connaître et à respecter.
C'est quoi, selon vous, le point commun entre toutes ces personnes, entre toute cette diversité d'intelligence?
Alors, entre toutes ces personnes, pour moi, c'est entre tous les êtres humains, parce que, ouais, voilà, pour moi, il y a vraiment, je ne vois pas de frontière vraiment entre les personnes qu'on dit atypiques et les personnes qu'on dit neurotypiques. Alors voilà, dans tous les groupes, tous les mouvements qui s'intéressent à la neurodiversité, il peut y avoir des extrêmes qui vont opposer effectivement les neuroatypiques, donc tous ces gens dys, TDAH, etc., aux neurotypiques, donc les gens considérés comme normaux. Moi, j'y crois pas une seconde. Voilà, il y a certaines personnes qui ont des caractéristiques plus qui ressortent un peu plus du lot et qui vont compliquer un petit peu leur intégration. Mais en creusant, on se rend compte qu'on a tous on a tous nos petites particularités et heureusement. Donc voilà, leur point commun, on va dire, c'est qu'ils sont trop peut-être. Ils sont trop quelque chose et ce qui fait qu'ils ont un peu plus de mal à s'intégrer, à se faire une place dans la société.
On parle parfois d'une vision différente du monde et de la vie.
Oui, tout à fait. Oui, c'est une autre façon de voir le monde, de voir la vie. Bon, là, on a cité les TDAH. On peut aussi citer, par exemple, les personnes autistes. C'est des gens qui ont une façon, effectivement, différente de voir la vie, de voir la relation à autrui, de questionner le monde. La frontière n'est pas nette. C'est des personnalités, on va dire, enfin, des profils cognitifs plutôt, mais du coup des personnalités aussi plus orientées dans une direction que dans une autre. En tout cas, effectivement, on dit souvent que c'est une autre relation au monde. Et par rapport au sens aussi, c'est important de le savoir. Vous parliez tout à l'heure des personnes hypersensibles. C'est vrai que jusqu'à présent, on considérait qu'une personne qui supportait pas telle lumière, qui supportait pas tel contact, faisait finalement des caprices, quoi. Et là, on se rend compte qu'effectivement, au niveau des sens, il y a une perception qui est radicalement différente, perception du monde qui est radicalement différente aussi.
On dit aussi que les personnes surdouées, par exemple, ont une curiosité intellectuelle très vive qui va de pair avec un besoin de découverte et de changement. Qu'est-ce que vous dites de ça?
C'est des personnes qui ont besoin aussi qu'on réponde à cette demande, à cet appétit, à cette soif de connaître permanente. C'est des personnes pour qui le monde de l'école ou le monde du travail classique peut être vite ennuyeux, voire anxiogène. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que, encore une fois, quand on parle de neurodiversité, c'est prendre en compte aussi la richesse de la diversité. Et là, pour le coup, c'est vraiment évident que cette soif de savoir, cette curiosité permanente, cette capacité à réfléchir, à faire des liens, entre des domaines ou des données qui sembleraient n'avoir rien à voir ensemble pour d'autres personnes, c'est vraiment une richesse et il faut vraiment réussir à prendre ces personnes telles qu'elles sont et à leur permettre d'exprimer leur potentiel.
D'après votre expérience, est-ce que le fait de rencontrer un spécialiste qui poserait peut-être un diagnostic au potentiel ou autre peut changer quelque chose pour les personnes concernées? C'est-à-dire, est-ce que ça bouleverse une vie d'être diagnostiqué, même si ce n'est pas un très joli mot, on en parlait tout à l'heure? Est-ce que ça offre une seconde vie, une nouvelle grille de lecture en quelque sorte?
Ça peut effectivement changer une vie, ça peut changer le regard qu'un individu va avoir sur lui. Ce qu'on peut observer actuellement, c'est que de nombreuses personnes en fait, sont restées dans un état de dépréciation, de manque d'estime de soi assez grave et qui effectivement ont été sauvés d'une certaine façon par ce diagnostic. Alors vous parlez du haut potentiel, mais je crois que la question n'est pas, parce que le mot haut potentiel il est un peu irritant, hein, ça veut dire on est supérieur aux autres. Je crois que là n'est pas la question, enfin en tout cas pour la plupart, la question c'est plutôt d'avoir des clés et de se dire « Ah oui, en fait, c'est parce que j'ai un fonctionnement cognitif un petit peu atypique que je suis complètement perdue, que je ne m'y retrouve pas, que je suis jugée par les autres, que par moments j'ai des blocages. » Donc effectivement, oui, il y a des gens pour qui c'est extrêmement bénéfique. Après, il ne faut pas rester enfermé là-dedans. C'est une réponse, c'est une étape. Mais après, il faut passer à autre chose, il faut l'utiliser pour aller plus loin.
Parmi les thématiques qui reviennent souvent dans vos écrits de théâtre, il y a notamment la tolérance ou l'acceptation de l'autre. Et à côté de ça, vous avez écrit un essai intitulé « L'échec scolaire n'existe pas » aux éditions Albin Michel. Le postulat, c'est justement d'accepter toutes les intelligences à l'école, c'est-à-dire d'admettre la diversité des fonctionnements et l'espoir aussi que les institutions s'y adaptent. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, oui. Ce qui est en train de se passer, c'est que certains enfants sont en train de subir une double stigmatisation. Donc on connaissait la reproduction des inégalités sociales, mais on a aussi la création d'inégalités, ce que j'appelle des inégalités cognitives ou la ségrégation cognitive. Pour les élèves qui sont issus de classes aisées, ça va souvent pas toujours être plus facile puisqu'ils vont pouvoir aussi se retourner vers des écoles privées, renforcer la scolarisation, prendre des profs à domicile. Mais les élèves qui n'en ont pas les moyens, les familles qui n'en ont pas les moyens, vont voilà se voir imposer une double peine parce que ils vont non seulement subir les discriminations sociales, mais aussi les discriminations cognitives qui, pour moi, mènent les gens malheureusement à la dérive. En tout cas, pas du tout là où ils mériteraient d'être, parce que personne ne mérite finalement enfants, adolescents, jeunes adultes, d'être stigmatisés et estampillés, on va dire, moins que rien, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Donc oui, moi, clairement, je pense que l'école, c'est pas du tout ce que les citoyens aujourd'hui attendent de l'école, en fait. L'école, ça a été dit et redit, c'était déjà le cas il y a 100 ans, il y a 50 ans. L'école, elle est vraiment en décalage complet avec ce qu'attendent les citoyens. On a vraiment besoin d'une refonte totale du système scolaire en France.
Et ça passerait par quoi, en fait, justement, pour que toutes ces personnes ne passent pas à côté de leur vie, en quelque sorte?
Oui, c'est pour ça que la philosophie, et en l'occurrence la philosophie de l'éducation, est importante, parce que je pense que tout d'abord, on doit, au lieu d'être dans une logique productiviste, très pragmatique, parfois scientiste de l'enseignement, je crois qu'on doit vraiment se questionner effectivement sur le rôle qu'on veut donner à l'école, sur ce que l'école doit apporter aux enfants, aux futurs citoyens. On est clairement enfermé en fait dans le vieux modèle, hein, dans le vieux modèle de l'école qu'on peut appeler l'école du taylorisme, l'école industrielle, où il faut produire. Alors certains disent qu'on doit produire des bons soldats, d'autres disent qu'on doit produire des bons petits ouvriers, mais voilà, on est dans une production d'enfants, finalement, de personnes uniformes, et on hiérarchise les individus, on hiérarchise les intelligences, on hiérarchise les parcours, alors qu'en réalité, il faudrait repenser une école qui n'hiérarchise plus, donc qui ne classe plus les enfants, qui ne soit plus dans une logique, en fait, d'évaluation, de sanction, parce que ça ne sert à rien. L'évaluation, ça a été prouvé que déjà c'était jamais objectif, et en plus que c'était contre-productif, que c'était stressant, que c'était stigmatisant, etc. Donc voilà, il faut revoir le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est pour accompagner un enfant à apprendre, évidemment. C'est pas évidemment qu'on veut tous que les enfants apprennent à l'école, leur apprendre aussi à avoir confiance en eux, à avoir de l'estime pour eux-mêmes, à apprendre à vivre en communauté aussi, à apprendre à vivre avec les autres. Ce qu'on n'apprend pas du tout, c'est dans les programmes. En réalité, les enfants n'apprennent pas du tout à vivre avec les autres. Ils apprennent à être en concurrence les uns avec les autres. Ils apprennent à être mal à l'aise devant les autres quand ils doivent passer à l'oral et que ça ricane. Ils n'apprennent pas la tolérance vis-à-vis des autres, justement. La neurodiversité, ça, c'est quelque chose qui manque cruellement aussi dans ce qu'on transmet aux enfants. La tolérance par rapport aux gens qui se comportent un petit peu différemment de nous, etc. Donc il y a déjà ce que j'appelle la culture scolaire. On doit vraiment revoir la culture scolaire, et il y a des propositions concrètes, mais tant qu'on n'aura pas changé cette culture scolaire, ça ne suffira pas.
Est-ce que selon vous, la philosophie a un rôle à jouer dans tout ça?
Ah oui, je suis complètement pour. Et puis, de toute façon, je pense que les questionnements philosophiques, ils viennent dès le plus jeune âge. Ce matin, il y a un de mes enfants qui a dit à son père, « Quand on ne se souvient de rien, on ne peut aller nulle part. » Donc voilà, il suffit de n'importe qui travaillant avec des enfants jeunes vous le dira. Les enfants, dès le plus jeune âge, ils se posent des questions philosophiques. Et c'est vrai qu'on les balaye et on leur enlève un petit peu on annule un petit peu cette ouverture, ces questionnements sur ce que sont les choses, comment elles doivent être, qu'est-ce que le monde des autres, comment je dois composer avec les autres. Ça, c'est des questions qui sont philosophiques et qui doivent être effectivement abordées. Le rapport à la normalité aussi, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à aborder avec les enfants. Donc oui, clairement, ça manque. On manque énormément d'ouverture et on ne donne pas assez de place à ces questionnements que les enfants ont déjà, finalement.
Je me suis noté un passage de votre livre dont j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit peu la lecture. Je vous laisse nous lire ce petit paragraphe.
L'émancipation tient à l'acquisition progressive de la liberté par l'expérience et le savoir. Au gré des apprentissages et des expériences, cette liberté s'affirme et doit se respecter. Or, nous avons tendance à envisager l'émancipation de nos enfants comme un changement soudain, identique pour chacun, lors de l'accès à la majorité. Au cours de ces 15 années de scolarité, nous ne cédons à l'élève aucune liberté. Puis, lorsqu'il atteint l'âge adulte, il est jeté dans le monde et c'est souvent à ce moment-là, et donc de manière tardive, qu'il apprend l'autonomie. C'est intéressant l'autonomie, il y a des choses à dire.
Vous voulez rebondir là-dessus ?
Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'autonomie des élèves. C'est un sujet qui est assez risqué, justement avec le modèle éducatif qu'on a aujourd'hui. Et l'autonomie, et j'avais relevé ça dans des écrits récents du ministère de l'Éducation nationale, l'autonomie peut être définie comme finalement la capacité, alors j'avais relevé l'expression, à automatiser des process. Il faut faire attention à ce qu'on appelle l'autonomie. Donc, bon, je rappelle l'étymologie, j'aime bien rappeler les étymologies. Donc, autonomos, donc obéir à sa propre loi. Encore une fois, évidemment, hein, le but c'est de composer avec les autres, c'est pas de faire ce qu'on veut et d'être concentré sur ses désirs et ses pulsions individuelles. C'est pas la question. Voilà, moi j'ai peur de l'autonomie telle qu'elle est présentée à l'école. Comme une déclinaison en fait du programme qu'on attend de nous. C'est bien de parler de programme parce qu'on est très dans les intelligences artificielles, etc. Mais moi, ça me fait un petit peu peur cette tendance à avoir l'autonomie comme on va mettre l'enfant dans telle situation avec tel outil, il devra procéder exactement de telle manière. Ça me fait un petit peu peur. Donc moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de voir quelle autonomie l'enfant peut acquérir. Plus jeune qu'à la majorité. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves en fait qui craquent aussi au lycée, au collège, aussi parce qu'ils sont encore, ils subissent en fait la même autorité que plus jeunes, et on ne les laisse pas prendre petit à petit reprendre le pouvoir sur leurs apprentissages, qui devraient d'ailleurs avoir dès le plus jeune âge. Hein. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une très très grande frustration pour beaucoup d'adolescents de ne pas être écoutés dans leur désir d'apprendre, parce qu'en fait les enfants aiment apprendre, j'en suis convaincue. Les enfants aiment apprendre, les enfants ont un élan vers l'apprendre. Et en fait, être à l'écoute de leur autonomie, ce serait plutôt être à l'écoute de leur centre d'intérêt, de leur stratégie d'apprentissage, de leur projet, de leur du cheminement qu'ils sont en train de se tracer. Je trouve ça un petit peu brutal en fait. Ils sont très très cadrés, puis d'un coup plus du tout. Ça a pas trop de sens pour moi. On sait même pas. Hein, voilà, il y a pas d'accompagnement finalement vers cette autonomie, vers cette prise en charge de soi. Et pour beaucoup, c'est très très compliqué le passage de l'un à l'autre.
Oui, la question que ça a soulevé pour moi, c'est est-ce que ce phénomène, le fait comme ça d'être lancé en roue libre après plus d'une décennie de scolarité, est-ce que ce phénomène participe à ce qu'on observe de plus en plus dans nos vies d'adultes ? Je pense aux réorientations de carrière, parfois brutales, aux ruptures dans nos choix de vie, ou même à des burn-out éventuellement. Ce que je veux dire, c'est peut-être que le fait de ne permettre comme ça aucune liberté aux élèves pourrait par exemple avoir des conséquences sur un certain processus pour devenir soi-même ou pour trouver ce qui nous épanouit ou encore sur la confiance en nos choix d'adultes, des choses comme ça.
Je pense que les enfants n'ont pas le temps et la liberté effectivement de se connaître et de savoir ce qu'ils veulent faire. Donc c'est évident qu'à l'âge adulte, ça va avoir des conséquences. Ils vont faire ce qu'ils veulent bien faire, vont faire finalement ce qu'on attend d'eux. D'autres vont subir l'échec scolaire, le fameux échec scolaire, et vont être du coup dans des voies qui ne les intéressaient pas a priori. Et puis pour rebondir aussi sur la neurodiversité, en fait, certains élèves, parce qu'ils n'ont pas certaines compétences, ne vont pas pouvoir suivre le cursus qui les aurait passionnés ou pouvoir faire le métier qui les aurait passionnés, alors qu'en fait, la petite différence qu'ils avaient à l'école, finalement, n'aurait pas été forcément un désavantage pour l'exercice de leur métier. Et comme ils avaient la passion et la motivation, ça aurait pu... Donc, certains réparent comme ils peuvent, effectivement, leur parcours. Mais c'est clair que si les enfants étaient, dès le plus jeune âge, plus à l'écoute d'eux-mêmes, si on leur permettait d'exprimer ce qu'ils aiment faire, et si on valorisait toutes les passions et tous les centres d'intérêt. Je pense évidemment à tout ce qui est travaux manuels, par exemple, et artistiques aussi, parce qu'ils ne sont pas valorisés dans tous les milieux. C'est vrai qu'on aurait, je pense, des parcours différents. Après, ça peut être positif aussi. Hein, comment dire ? Enfin, je veux dire, le fait d'arriver à un moment donné à un changement de vie, c'est pas forcément synonyme d'un échec antérieur. Je pense qu'on peut aussi aller au bout de quelque chose et puis rebondir sur autre chose qu'on n'aurait pas pu faire si on n'était pas allé sur ce chemin-là. Moi, j'ai vécu ça aussi dans mon parcours professionnel, certaines expériences où j'étais complètement à côté de la plaque par rapport à mon profil et à ce que je pouvais aimer, finalement m'ont énormément servi pour des expériences différentes.
Lorsque je vous ai proposé cet entretien, vous avez tout de suite évoqué le philosophe Georges Canguilhem. Pour vous, c'est apparemment un penseur du changement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
Déjà, il a quand même le grand prestige, on va dire, d'avoir à la fois une formation de médecin à une formation de philosophe. Et il a choisi finalement de renoncer à sa formation de médecin pour philosopher. Donc déjà, il est très très précieux dans l'histoire de la philosophie actuelle, pas récente, parce que voilà, il apporte vraiment un regard de scientifique et de philosophe. Donc c'est quelqu'un effectivement qui a refusé de suivre la ligne finalement qu'on lui avait tracée ou qui s'était tracée au préalable, qui est rentré dans la résistance de manière très engagée, sans hésitation. Je parlais tout à l'heure de remettre en cause le cadre, les normes des institutions. Donc, eh bien, lui, c'est par excellence le philosophe qui remet en question le cadre et les normes dans lesquelles on évolue, notamment dans le monde de la santé, mais aussi dans le monde scolaire, et il remet en question les normes. Se libérer des normes, c'est ce qui nous permet, en fait, d'être ouvert au changement, d'être ouvert à un autre avenir, de faire d'autres propositions. Et donc c'est pour ça que un philosophe qui décompose en fait à ce point notre cadre de vie. Alors, enfin voilà, je suis obligée de donner un exemple, mais par rapport à, il a beaucoup parlé de la maladie, de la pathologie. Donc il expliquait que par exemple la pathologie en soi n'existait pas et que le médecin devait toujours se référer à l'individu, que la vie en fait était nécessairement normative, donc qu'elle créait des normes et qu'il fallait se référer, que le médecin devait se référer à l'individu et à ses propres normes. Donc vous voyez que c'est assez évocateur aussi pour le monde de l'éducation. Le fait de prendre de la distance comme ça, de détruire son cadre, permet de refuser en fait, ça permet de dire stop finalement au déterminisme, à la résignation, et ça permet de refuser finalement le carcan qui est imposé. Il a beaucoup travaillé donc sur les normes vitales, les normes biologiques, mais vraiment il faisait le parallèle avec les normes sociales, avec les normes de l'école aussi. Ni les normes biologiques vitales, ni les normes sociales finalement n'avaient en elles la légitimité pour imposer un quelconque modèle d'existence. C'est un philosophe qui permet de reconstruire, de ne pas se laisser happer par le normal, par le regard aussi que la société peut poser sur nos actions, sur nos projets, sur nos décisions, et voilà, de se référer à soi, à son propre parcours, à ses valeurs aussi. Je pense que c'est un philosophe qui peut apporter beaucoup dans la réflexion autour du changement.
Je crois que ce philosophe a distingué l'anormal de l'anomal, de l'anomalie, toutes ces notions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est très intéressant parce que, en fait, Canguilhem distingue l'anomalie, une exception d'un point de vue statistique. C'est-à-dire, voilà, quelque chose qui est différent, qui ne ressemble pas à la majorité, à la moyenne, mais qui, sans y poser, en fait, de jugement de valeur. Et l'anormal qui est, finalement, quelque chose qui représente un état dégradé par rapport à la norme, à l'ordinaire en fait. Du coup, c'est intéressant aussi de prendre en considération ce point de vue-là, parce que du coup, on se rend compte que souvent, des choses qui sont des exceptions statistiques, hein, pour reprendre les mots de Canguilhem, vont être considérées comme de la normale et vont être considérées, on va y poser un jugement de valeur, on va les considérer comme de manière péjorative, alors qu'en fait, si on prend du recul, on se rend compte que finalement, ça peut être tout, hein, ça peut être des comportements, ça peut être un état, ça peut être un physique, ça peut être, on peut l'étendre du coup à un projet, à un parcours de vie. On va être simplement différents, mais ne vont pas être inférieurs et ne vont pas être une forme dégradée de vie ou une forme dégradée pour parler d'échecs et de réussite, ne vont pas être une forme dégradée de la réussite des autres. Finalement, c'est une autre façon d'être. Et ça rejoint aussi tout à fait l'idée de neurodiversité qui explique que quelqu'un qui est différent, qui a un fonctionnement différent, a juste une autre façon d'être, une autre façon de voir le monde, mais n'est pas inférieur parce qu'il est plus rare, en fait. c'est ça l'idée.
Alors ça pourrait être le mot de la fin, mais je vais vous laisser la liberté de conclure peut-être autrement. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ou conseiller éventuellement aux auditeurs, auditrices qui sont peut-être en quête de changement dans leur vie?
Je crois qu'il faut vraiment prendre de la liberté par rapport au regard de la société, à la privation de liberté que peuvent constituer toutes les normes, toutes les attentes des autres. Là, parce qu'on parle de changement, on parle d'un projet, d'un autre projet de vie, par exemple. Je crois que voilà, il faut être à l'écoute de tous ses besoins, de toutes ses valeurs, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie de donner au monde. Et je pense à une citation de René Char qui dit qu'il y a des rencontres furtives qui valent bien des aurores. Voilà, je crois que des fois, il se passe quelque chose et il faut savoir y aller, quoi. Voilà, il faut se faire confiance.
C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour Les Déviations. Cet instant philosophie vous a plu ? Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.